Radio Okapi.
Bien, la grande édition de la mi-journée, c'est tout de suite avec Blaise Shindani.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée, dont voici les titres. Dans le dernier rapport de l'OCHA publié hier, l'année 2025 s'achève sur un bilan macabre. 13 humanitaires tués, 40 blessés et autant d'enlèvements. Si le Nord Kivu demeure la province la plus rouge, le mois de décembre a été marqué par une explosion de la violence au Sud Kivu. Arrêt de travail ce vendredi dans les écoles de la province éducationnelle Tchopo 2, dans les territoires d'Opala, dans la province de la Tchopo. Et pour cause, le non-paiement des salaires des enseignants depuis 3 mois par la Caritas diocésaine d'Isangi. L'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Chabunda est devenu un casse-tête. L'inaccessibilité par voie routière demeure le facteur principal auquel s'ajoute celui de l'insécurité sur l'axe Bukavu-Chabunda. Pour en parler, nous recevons les médecins chefs des zones de santé de Chabunda, Dr Kiatuga Guillaume. Encore une fois, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Dans l'est du pays, l'insécurité n'épargne pas les acteurs humanitaires. Selon les derniers rapports du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, publié hier, l'année 2025 s'achève sur un bilan sanglant. 13 humanitaires tués, 14 blessés et autant d'enlèvements. Si le Nord Kivu demeure la province la plus rouge, le mois de décembre a été marqué par une explosion de la violence au Sud Kivu. Les autres provinces concernées sont l'Ituri, le Tanganyika et le Maniema. Les détails avec Jean-Gandou Kabongo.
En 2025, ce sont plus de 600 incidents qui ont visé les acteurs humanitaires dans l'est du pays. Le Nord Kivu détient le triste record de la province la plus risquée, concentrant près de la moitié des cas enregistrés. Selon ce rapport, c'est la province du Sud Kivu qui compte 50% des incidents du mois dernier, surpassant même le Nord Kivu. Une situation qui s'explique par les affrontements et l'insécurité grandissante sur les axes de distribution. Toutefois, le rapport note que toutes les menaces ne sont pas liées au combat. Ce sont des cas de cambriolage et vol qui arrivent en tête, suivis de près par les entraves à la circulation et les actes d'intimidation. En ce début d'année 2026, ce rapport sonne comme un cri d'alarme. Il appelle à une protection réelle pour ces humanitaires qui, chaque jour, risquent leur vie pour soulager des populations prises au piège de la crise sécuritaire.
À Bunia, en Ituri, cependant, les conditions de détention à la prison centrale se sont sensiblement améliorées au cours des 2 dernières années. Selon les médecins responsables de cet établissement pénitentiaire, le nombre de décès ainsi que celui des détenus malades a fortement diminué. Cette amélioration est attribuée aux efforts conjoints du gouvernement congolais et de ses partenaires, notamment la MONUSCO et le Comité international de la Croix-Rouge CICR, dans les domaines de la santé, de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de la construction d'infrastructures. Isaac Remoyope, reportage.
La prison centrale de Bunia compte actuellement environ 2100 détenus, parmi lesquels des adultes et des enfants, logés dans des cellules distinctes. Un bâtiment supplémentaire abrite désormais une infirmerie destinée à la prise en charge médicale des détenus. Ces infrastructures, construites notamment avec l'appui de la MONUSCO, ont également contribué à l'amélioration des conditions de détention. Les installations sanitaires, autrefois bouchées et insalubres, ont été réhabilitées. De son côté, le CICR a renforcé la desserte en eau potable, permettant de répondre aux besoins quotidiens des détenus, notamment pour la cuisine, la lessive et l'hygiène corporelle. Le gouvernement congolais apporte également des subventions régulières pour la prise en charge alimentaire des pensionnaires. Grâce à ces différentes interventions, le nombre de décès est passé d'environ 30 par mois il y a 2 ans à moins d'un cas de mort naturelle par mois aujourd'hui. Le nombre de consultations médicales quotidiennes a lui aussi nettement baissé, passant de 50 à une quinzaine par jour. Le docteur Willy Moutro, médecin responsable de la prison centrale de Bunia, exprime sa satisfaction.
Nous sommes satisfaits. Avant, la plupart des cas de décès, c'était lié à la mauvaise prise en charge. Les cas de transfert d'abord ont diminué, même les consultations.
Toutefois, malgré ces avancées, plusieurs défis demeurent, notamment l'insuffisance alimentaire. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Restons dans la province. Le centre commercial de Boulé dans le territoire de Djougou ressemble de plus en plus à une cité fantôme. Toutes les activités socio-économiques restent paralysées, ce qui rend difficile la vie de la population locale de cette entité devenue le théâtre des affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Retrouvons sur place notre envoyé spécial, Martial Kiza Biamongo.
Nous sommes au rond-point Vadjero, ici au centre commercial de Boulé. Le silence est total. Boutiques, magasins, officines pharmaceutiques et même les marchés sont fermés. Des écoles et structures sanitaires ne fonctionnent pas. L'air agarre, la peur au ventre. Les quelques rares habitants qui nous racontent ne savent à quel sein s'avouer. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, le retour de la paix dans leur entité pour permettre le retour des déplacés et la reprise normale des activités. Car environ 90% de la population du centre des négoces de Boulé s'est réfugiée vers la plaine Savo, fuyant les affrontements entre les FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga. Des sources sécuritaires confirment par ailleurs que de nombreux miliciens de la CRP sont dissimulés parmi les quelques habitants restés sur place. Ce vendredi matin encore, la tension restait vive entre ces miliciens visibles au centre commercial de Boulé et les FARDC repliés sur la colline à moins de 3 km de la cité. Une situation qui accentue davantage la peur et l'incertitude parmi la population de cette entité. Depuis les ronds-points Vadjero à Boulé Centre, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu où les chefs des confessions religieuses de Butembo, Beni et Lubero, conduits par l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, ont échangé jeudi avec le gouverneur du Nord Kivu. En mission à Butembo, le général Évariste Kakule Somo a discuté avec ses hommes des dieux de la situation sécuritaire dans la zone sous son administration, marquée ces dernières semaines par les attaques des ADF dans le sud du territoire de Lubero ainsi que par l'insécurité persistante dans d'autres agglomérations. Selon l'abbé Aurélien Rukwata, président de la commission justice et paix du diocèse catholique de Butembo Beni, le gouverneur a rassuré ses interlocuteurs quant aux mesures prises pour renforcer la sécurité et de la population. Il s'exprime dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Nous avons parlé des préoccupations de la population, non seulement de la ville de Butembo, mais de toute la région qui est contrôlée par son Excellence le gouverneur, la situation socio-sécuritaire dans l'ensemble qui se dégrade. Et nous avons eu à lui partager les préoccupations liées aux tueries, aux tracasseries de barrières, cette fluctuation sur la route Beni-Butembo et tant d'autres difficultés que nous avons, que nous connaissons ici et qui font que la cohésion sociale est en train de s'effriter progressivement. La réponse de son Excellence le gouverneur a été dans le sens de nous partager les mesures qui ont été prises pour faire face à cette préoccupation légitime de la population. Il y a des mesures qui peuvent être connues, qui seront connues, et d'autres qui restent sur le plan stratégique que je ne peux pas divulguer maintenant. Mais dans l'ensemble, nous avons convergé pour que tout soit fait, pour que la population puisse retrouver sa quiétude.
Je le disais en titre, dans la province de la Tchopo, les écoles de la province éducationnelle Tchopo 2, installées dans le territoire d'Opala, ne fonctionnent pas ce vendredi 9 janvier courant. En cause, le non-paiement des salaires des enseignants depuis 3 mois par la Caritas diocésaine d'Isangui. L'administrateur du territoire d'Opala qui confirme cette information dit être au cœur avec eux, car, souligne-t-il, ces enseignants n'ont jamais été payés en temps utile. Le point avec Jacques Mokonkole.
Les enseignants du territoire d'Opala n'ont pas encore touché leur salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Toutes les démarches menées auprès de l'agent payeur et des autorités politico-administratives n'ont toujours pas abouti. Voilà pourquoi ils ont décidé de sécher les cours et descendre aujourd'hui dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol pacifiquement. Ce manque de salaire leur contraint de vivre comme des clochards, déclare leur président syndical Bienvenue Ndafou.
Nous vivons très très mal à Opala, c'est très malheureux parce que nous sommes devenus comme les mendiants, hein, vraiment, rien, ça ne va pas. C'est pourquoi nous déplorons auprès des autorités et surtout à notre chef direct ici, l'administrateur. C'est lui qui pouvait faire le tout pour remonter les informations au niveau hiérarchique.
L'administrateur du territoire, Médard Elongué, dit avoir informé sa hiérarchie de cette situation qui met en mal la vie de ses administrés. Jusque-là, aucune réponse de la Caritas de Saint-Zéné Dissangui. Toutefois, son directeur a toujours déclaré que le retard de paiement est dû au non-versement à temps de l'enveloppe salariale par le gouvernement à travers l'organisation financière l'IFOD. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Situation similaire dans la province du Maniema. Les anciens Alikindou dans cette province continuent à réclamer leur salaire. Ce jeudi, ils ont organisé un sit-in au bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, au gouvernorat et à la Caritas Développement Kindou. À l'Assemblée provinciale, ces enseignants ont lu et déposé leur mémorandum au président de l'organe délibérant, sollicitant son implication pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Florence Kizalunga, reportage.
Nous irons jusqu'au bout.
Ces enseignants en colère exigent que le gouvernement cherche un autre prestataire par lequel leur salaire va transiter. Ils en ont marre de la Caritas qui, selon eux, ne parvient pas à libérer leur salaire à temps. Misenga Chamilungu, permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko de Nyoka et ses environs.
1. Rupture avec la Caritas et Kindu afin de nous transférer dans l'une des banques de préférence Tembe. 2. Paiement de 2 mois de salaire, dont novembre et décembre, ainsi que la restitution de 80 000 francs de primes de gratuité des enseignants de l'école primaire, y compris les frais de fonctionnement.
Le secrétaire provincial du Sieko Maniema, Maulu Mwenda Mukute, fait savoir que si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, les enfants paient les prix.
L'éducation est un instrument de libération d'un peuple. Et si l'enseignant n'est pas dans de bonnes conditions, il ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et s'il ne donne pas le meilleur de lui-même, ce sont les enfants qui en paient les frais.
Le vice-président et président intérimaire de l'Assemblée provinciale a qui ils ont remis leur mémorandum, a promis d'inviter le gouverneur et le ministre sectoriel pour traiter de cette question. Théophile Bouléli Docteur.
Nous vous rassurons, à partir du lundi, nous allons inviter le gouverneur de la province qui sera accompagné par son ministre de l'éducation et nous allons tout faire pour trouver une solution à votre cri d'alarme.
Malgré cette assurance de l'Assemblée provinciale, les enseignants durcissent leur mouvement de grève. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ici dans la capitale, au moins 160 agents et cadres du secrétariat général aux mines ont renforcé leurs capacités après une formation d'un mois à l'école nationale d'administration ENA. Cette session a permis aux lauréats de maîtriser les textes légaux en matière de gestion du secteur minier. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a salué cette initiative qui s'inscrit dans la ligne droite de la politique gouvernementale qui fait de la formation son cheval de bataille. Les explications de Blaise Ndongala Mayanda.
Assurée par l'École nationale d'administration, cette formation a porté sur sept modules, notamment les grands axes du code minier, les textes essentiels du règlement minier, l'analyse et le traitement des rapports, les statuts de l'agent public de l'État, ainsi que les conditions préalables du contrôle fiscal minier. Les lauréats ont remercié les autorités du gouvernement et celles de l'administration publique pour leur implication dans la réussite de cette formation d'excellence. Le directeur général de l'ENA salue l'engagement des apprenants et souhaite que cette initiative soit pérennisée pour la construction d'une administration public plus compétent. Tombola Mouké.
Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui, à travers la ligne de travail qu'il nous a fixée, permet à l'ENA de jouer pleinement son rôle en contribuant mieux qu'avant à l'effort de construction d'une administration publique plus compétente, plus rigoureuse et plus efficace au service de l'État.
Le ministre des Mines attribue le succès de ces programmes à la collaboration cohérente entre les services du secrétariat général des Mines et l'École nationale d'administration. Louis Watoum appelle ainsi les lauréats à mettre les connaissances acquises au service de la nation.
Le certificat que vous allez recevoir ce jour ne constitue pas une fin en soi, mais bien un engagement de servir le pays avec plus de compétences.
De son côté, le vice-premier ministre de la fonction publique souligne que le gouvernement souminois fait désormais de la formation des agents et cadres un des enjeux stratégiques pour l'amélioration du service public.
Toujours à Kinshasa, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngefa, exprime sa satisfaction d'avoir contribué aux efforts de transformation du secteur judiciaire 5 mois après sa prise de fonction. Lors du briefing de presse co-animé ce jeudi avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katemboué, il a indiqué qu'au cours de cette période, 324 dossiers ont été ouverts à l'encontre des magistrats. Guillaume Ngefa précise que certains de ces magistrats véreux ont été condamné à des sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation. Il se réjouit également d'avoir institutionnalisé la lutte contre la corruption à travers les pays. Le propos de Guillaume Ngefa recueilli par Blaise Ntongala Mayanda.
Plusieurs dénonciations émanant de justiciables et des avocats ont été traitées. Nous avons reçu 324 dossiers ouverts à charge des magistrats, dont certains ont été condamnés à des peines disciplinaires et d'autres condamnés au pénal. Et bien sûr, il y a eu des révocations et des poursuites pénales ont été prises, traduisant ici une nette rupture avec la culture de l'impunité. J'ai eu des contacts avec les différents bâtonniers pour que ceux qui participent dans la chaîne criminelle puissent être tenus responsables. Donc, des avocats, huissiers de justice, autres membres du personnel judiciaire impliqués dans ces actes-là n'ont pas été épargnés. D'abord, la lutte contre la corruption a été institutionnalisée. C'est l'une de nos priorités. Nous avons reçu plus de 400 dénonciations émanant des institutions étatiques, y compris des ministères et des particuliers ont été réceptionnés en cours de traitement. Donc, 30% concernent les biens fonciers et immobiliers de l'État. À cet égard, 13 injonctions encore emblématiques, formelles, adressées au procureur général après la Cour de cassation sur ces dossiers sensibles liés à la spoliation immobilière et à la fraude minière.
Rendons-nous dans le Kasaï central avant d'aller plus loin. La forte pluie qui s'est abattue jeudi sur la ville de Kananga, chef-lieu de cette province, a causé plusieurs dégâts dans différents quartiers de la ville. C'est notamment des maisons écroulées, des toitures emportées et des arbres déracinés. Détail avec André Katende Ngalamouloumé.
C'est depuis la matinée du jeudi que la ville de Kananga était arrosée par une forte pluie qui s'est abattue pendant de nombreuses heures. Elle a causé d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville. Par exemple, dans la localité de Dikou, sur l'avenue Likassi 2, les eaux de pluie sont sorties des caniveaux, détruisant la route et envahissant les habitations. Selon Pascal Kankonde, chef de la localité de Dikou, le caniveau est bouché par un arbre abattu par un habitant du coin. Il invite ses administrés à curer les lieux de ruissellement des eaux afin d'éviter pareils dégâts à l'avenir. Ces précipitations ont également entraîné l'élargissement de plusieurs têtes d'érosion à de nombreux endroits dans la ville de Kananga. Kananga, André Katinde Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Centrafrique, l'autorité nationale des élections a proclamé jeudi 8 janvier à Bangui les résultats provisoires des législatives du 28 décembre 2025. Une annonce faite à l'issue du recensement général des suffrages exprimés dans les 144 circonscriptions électorales du pays. Selon ces résultats, le mouvement Cœur Uni, parti au pouvoir, arrive en tête. Toutefois, plusieurs candidats indépendants ainsi que des formations de l'opposition dénoncent des cas de fraude et une organisation jugée défaillante. De son côté, l'autorité nationale des élections affirme que les opérations se sont déroulées dans la transparence et sans incident majeur.
L'invité.
L'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Chabunda est devenu un casse-tête. L'inaccessibilité par voie routière demeure le facteur principal auquel s'ajoute celui de l'insécurité sur l'axe Bukavu-Chabunda. Les patients qui nécessitent l'intervention chirurgicale meurent faute de prise en charge adéquate. Pour en parler, le médecin-chef des zones de santé de Chabunda, Dr Kiatuga Guillaume, est notre invité. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Docteur Kiatugu Guillaume, bonjour.
Oui, bonjour Jean Kassami.
Vous êtes médecin chef des zones de santé du territoire de Chabunda. Dans quelles conditions vous vous approvisionnez actuellement au regard des voies d'accès qui ne sont pas accessibles à cause de la guerre?
Présentement, l'approvisionnement en médicaments dans la zone de santé de Chabunda est très difficile et très compliqué. Nous nous approvisionnons difficilement à Kindu, parce qu'on n'a pas de route entre Chabunda et Kindu. Là, ceux qui y partent, ils nous amènent les médicaments sur vélo. Dès qu'on a, on achète le médicament et on emballe le médicament et on amène ce médicament par vélo. Et aussi, à ceux qui ont des moyens, ils vous achètent le médicament à Beni, parce qu'il y a des avions qui quittent Chabunda pour Beni. Mais le fret coûte énormément cher, 1 kilo pour 3,5 $. Et vous comprenez avec moi, le panier ménager est trop trop bas à Chabunda. Et aussi, nous vivons dans un état de guerre, là où tout ne fonctionne pas.
Alors, ces tableaux sombres que vous venez de peindre là, a-t-il des inconvénients sur le soin des malades?
Nous avons plus le flambé des réfugiés qui viennent des villages environnants et d'autres qui sont venus vers Bukavu et tous sont versés à Chabunda. Et avec comme conséquence, comment est-ce qu'un malade peut s'approvisionner en médicaments alors qu'il n'a pas d'argent? Et si aussi l'hôpital n'est pas appuyé, penses-tu que l'hôpital va soigner les malades? Voilà, les inconvénients sont multiples. Mais nous remercions le gouvernement central parce qu'il nous avons offert quelques molécules de médicaments et les médicaments étaient arrivés.
Et c'est pour ces raisons-là qu'on enregistre également des cas de décès lors de la chirurgie dans certains centres de votre zone de santé?
Oui, monsieur le journaliste, nous avons enregistré plus de décès. Au courant de ce mois de décembre, nous avons enregistré 9 cas de décès, dont 5 femmes par césarienne et 9 hommes ou de sexe masculin par des interventions toujours. Et tous ces 9 décès ont été faits dans des structures pirates et privées, orchestrées par quelques autorités locales.
Sinon, comment pensez-vous qu'il faille faire pour éviter tous ces cas?
Même si moi, le monsieur chef de zone, j'interdis ces pratiques, et voilà encore, ils vont courir derrière quelques autorités pour que ces structures-là soient réouvertes encore. Alors, je m'étais décidé en tant que zone de santé, le représentant du ministère, de donner des sanctions dans ces structures, à ces structures. Mais malheureusement, ces sanctions-là étaient tombées caduques. Vous imaginez, monsieur le journaliste, tous ces décès ont été commis à quelques mètres de l'hôpital général de référence. Et ces décès-là, il y a quelques médecins de l'hôpital général de référence qui y font par orgueil. Il y a aussi d'autres médecins qui se disent, alors qu'ils ne sont pas médecins, ils se couvrent soi-disant médecins, mais si vous regardez leur cursus, soit il n'a pas encore terminé à étudier, ou soit il avait fui la faculté de médecine. Alors, tous ces décès-là ont été faits dans les structures privées qui ne regorgent même pas un minimum de plateau. Et voilà, je reviens maintenant à ce sujet pour appeler les autorités locales, provinciales et nationales, et même le partenaire international, de nous aider à balayer ce fléau-là qui transforme ces structures privées en un abattoir. Je réitère aussi et je remercie la Radio Okapi pour cette diffusion et de nous aider aussi à vulgariser ce message auprès des autorités nationales et provinciales.
Docteur Kiatougou Guillaume, nous vous disons merci.
Je dis et je vous remercie, monsieur Jean Kassami.
C'était notre invité, le médecin chef des zones de santé de Chabunda, docteur Kiatouga Guillaume, qui s'entretenait avec Jean Kassami. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal parlé de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jean Gandou Kabongo et mise en onde des mains de maître par Pierre Diassinois. Ce journal est disponible sur notre site internet www.radiocapi.net.